Ce soir, on va commencer par sentir les vents et les embruns du Pacifique tout en restant, comme hier, très psychédélique. Nous sommes à la limite, prise entre les courants de la souffrance et de l'extase. Des paroles douces amères, inquiètes en tout cas, qui sont celles de Borderline. La nouvelle chanson que vient de diffuser, c'était le mois dernier, le groupe australien Tame Impala. Prélude à un nouvel album qui devrait normalement sortir, même si rien n'est confirmé, au début de l'été. Alors l'Impala, bah, vous savez sans doute, c'est une espèce particulière d'antilope, laquelle a également donné son nom à un célèbre modèle des automobiles Chevrolet, hein, très aérodynamique, hein, les Impala de la fin des années 50, qui sont de toute beauté. Après, il y a eu d'autres modèles moins élégants. Bref, rien à voir avec Tame Impala, l'Impala apprivoisé, qui est australien, un groupe australien donc né il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est un des plus populaires au monde, soit depuis l'année 2015, celle de la parution de son ultime album en date, Currents, dont le titre le plus connu, The Less I Know, The Better, totalise plus de 300 millions d'écoutes sur un site de streaming que je pratique beaucoup quand je prépare cette émission. Un phénomène que personne n'aurait imaginé en découvrant le premier album du groupe, In a Speaker, qui est sorti en 2010, qui était un enregistrement qui s'inscrivait alors dans un courant plutôt marginal, soit un rock néo-psychédélique, mélodieux et aérien, aux ambiances mélancoliques. Ça pouvait évoquer de loin certains groupes anglais du début des années 90, comme Ride, on y reviendra. À l'origine de Tame Impala, il y avait Kevin Parker. C'est un garçon qui avait grandi à Perth. C'est la seule grande cité de la désertique côte ouest australienne. Un jeune homme passionné de rock psychédélique sous toutes ses formes, qui avait abandonné son métier de juriste, hein, qui venait de commencer, pour étudier l'astronomie, science dont d'ailleurs il est diplômé. Alors l'astronomie, ben, c'est connu depuis Pink Floyd, va bien avec le psychédélisme et les psychotropes aussi, dont Kevin Parker revendique l'usage. Il avait ainsi déclaré dans une interview que la grande inspiration pour le troisième album du groupe, Currents, paru en 2015, hein, comme je vous le disais, ça avait été pour lui de prendre des champignons magiques et d'écouter les Bee Gees. Bon, s'il l'a dit, il faut le croire, mais enfin, c'est à compléter, parce que ce qui s'entend surtout à présent chez Tame Impala, c'est l'influence de l'électropop française du tournant des années 90 et 2000, je pense à Air, Daft Punk et Phoenix. C'est vrai, quand vous écoutez The Less I Know, The Better, vous vous dites que c'est franchement une chanson que Daft Punk aurait oublié de composer et d'enregistrer. Alors dans Borderline, la chanson qu'on vient d'entendre, on sent d'ailleurs ce côté flottant, un peu comme désengagé, propre à une certaine sensibilité française où la tristesse se cache souvent derrière un sourire détaché. Alors, des nouvelles de Kevin Parker, il faut dire, il revient de loin. En novembre dernier, donc 2018, il louait une maison à Malibu, sur la très belle côte de falaise, hein, qui s'étire à l'ouest de Los Angeles. Il y préparait des maquettes avec tout son matériel, guitare, clavier, console, magnétophone à bande, vintage aussi, etc., etc. Au milieu de la nuit, on l'a réveillé, on l'a averti qu'il fallait qu'il quitte immédiatement sa maison. Pourquoi ? Elle était cernée par les flammes. Vous avez peut-être entendu parler de ces terrifiants incendies qui ont dévasté cette région magnifique, hein, donc de l'ouest de Los Angeles. Alors Kevin Parker a eu juste le temps de prendre son ordinateur portable et sa précieuse basse vintage Hofner, hein, le modèle dont jouait Paul McCartney avec les Beatles. Et c'est tout, il a décampé, tout le reste a brûlé, 30 millions de dollars de matériel en cendres. Il lui a fallu tout racheter et louer une autre maison pour la rééquiper. Autre chose, Kevin Parker parle aussi dans cette très intéressante interview du New York Times, d'où je tire ces informations, de cette difficulté qui est la sienne de jouer à présent sur scène les showmen exhibitionnistes, lui qui naturellement regardait plutôt ses pieds du début à la fin des concerts de son groupe. D'autant qu'il s'est toujours identifié au banlieusard solitaire, écoutant sa musique sur ses écouteurs et sentant que sa vie noyé au milieu de centaines de milliers d'autres, ne valait absolument rien, que dalle. Il ajoute que pour retrouver la foi et la flamme afin d'écrire des chansons, eh bien il lui faut retrouver cet état d'isolement et éprouver un certain sentiment d'insignifiance. C'est ce qui lui donne alors le déclic, puisque la confiance, l'impression de tout maîtriser, d'avoir réussi, eh bien ça le paralyse. Je me rappelle d'ailleurs que Thom Yorke de Radiohead avait fait des déclarations dans ce sens aussi. Alors je vous parlais du fait de regarder ses pieds sur scène, habile transition, puisque on va écouter le groupe anglais Ride, une des influences de Kevin Parker et Tame Impala à leur début. Ride appartenait à ce courant né en Grande-Bretagne il y a bien longtemps, qui a marqué la première moitié des années 90. C'était à peu près entre le grunge de Nirvana et la Britpop de Oasis et Blur. Et c'est un courant qu'on a appelé par moquerie, mais enfin c'est resté le shoegazing, le fait de regarder ses chaussures en jouant. Il y a eu des groupes comme Lush, Moose, Chapter House, puis le plus prestigieux My Bloody Valentine, Slow Dive et Ride, qui jouent en effet des chansons au tempo souvent moyen, parfois même carrément lent, enveloppés dans un brouillard actionné par des fumigènes et ne communiquant absolument pas avec le public. Et si, regardez leurs pieds, en fait, c'est pas du tout pour se donner un genre, c'est simplement parce qu'ils avaient les yeux rivés sur leurs pédales d'effet, reverb, fuzz et distorsion. Il faut dire que le public ne dansait pas, il avait peut-être aussi lui aussi tendance à regarder ses pieds en se perdant dans une rêverie cotonneuse. Alors je vous parlais donc de Ride, qui fut un des phares du genre. C'est un groupe qui a été créé à Oxford, en Angleterre évidemment, par le chanteur Mark Gardner et le guitariste Andy Bell. Et Ride a publié dans la première moitié des années 90 ses trois albums. Il y en a eu un posthume en 96, c'était chez Creation, la compagnie créée par l'écossais Alan McGee, qui a lancé aussi Oasis. Ride a fait un très beau retour il y a quelques années et publie à présent un tout nouveau titre qui s'appelle Future Love, prélude sans doute à un nouvel album.
Daily grind, gotta leave it all behind. driving everybody crazy. Smoking mirrors to steal your mind. All is an illusion, my head in confusion. Codex Elementarius.
Retour après une longue absence, celui du chanteur anglais Ian Brown, dont le groupe les Stone Roses a ouvert à Manchester à la fin des années 80 la voie à une fusion particulière de rock psychédélique, de folk et de groove, voire de trance, qui allait permettre au groupe Oasis de prendre son envol. Les Stone Roses, hein, c'était leur nom, ont enregistré un premier album qui est paru en 1989 et qui a vraiment redessiné la carte. C'est un groupe qui a annoncé la naissance d'un rock différent, plus abstrait que figuratif, où c'était plus le sens, les paroles, le message ou l'attitude qui importait, ce qui était encore le cas dans l'après-punk, mais plutôt l'ambiance, l'atmosphère, une forme d'oubli, de bien-être et d'abandon des valeurs au fond sur lesquelles on vit encore aujourd'hui. Même si chez Kevin Parker de Tame Impala, c'est flagrant, au sein de cette espèce de coton, de cocon même, on pourrait dire, il y a la place pour une sorte de douce plainte un peu perdue qui n'est jamais agressive. Ian Brown a publié à la fin de l'année dernière Ripples, c'est son premier album depuis 2009, ça faisait longtemps, et ce titre qu'on vient d'entendre qui s'appelle First World Problems, qu'il a réalisé lui-même, révèle eh bien, qu'à défaut de se réinventer, ce qu'il avait tenté de faire en faisant des incursions dans le R&B au cours des années 2010, plutôt des années 2000, hein, parce qu'il n'a pas fait grand-chose dans les années 2010, Ian Brown a gardé toute sa fraîcheur. Voilà. Je vous propose à présent de vous déplacer à nouveau vers l'Australie, mais cette fois vers l'autre côte, à la côte est, à la plus connue, pour aller à Byron Bay. C'est à la jonction du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est à 2 heures de voiture environ au sud de la grande ville côtière de Brisbane. Et Byron Bay, c'est, paraît-il, le paradis des surfeurs. Babe Rainbow, eh bien, c'est à l'origine le titre d'un album du groupe anglais The House of Love, hein, qu'on a découvert en même temps que les Stone Roses à la fin des années 80. C'est aussi le nom d'un tout jeune groupe australien formé donc à Byron Bay par des surfeurs vivant dans la nature, des hippies, presque un pléonasme. Jack et Angus, deux copains de lycée, ont rencontré lors d'un voyage en France un certain Loulou, un pianiste vénézuélien, et ils ont formé avec lui le groupe Babe Rainbow, d'après le titre de l'album de The House of Love, c'était il n'y a pas longtemps, en 2015. Alors ils ont l'air en effet de hippies très allumés, ce qu'ils sont sans doute, mais leur musique est une version à la fois très douce et funky, mais dans un genre moite et tropical extrêmement languide et ralenti du psychédélisme. C'est Stu McKenzie de King Gizzard and the Lizard Wizard, on l'a entendu hier, qui les a aidés à réaliser leur premier album qui est paru en 2017, un album qui les a fait repérer aux États-Unis par Danger Mouse, ce réalisateur artistique très inventif, dont je vous parlais sur France Inter dans le Very Good Trip d'hier soir, qui fait de la musique entre hip-hop, électropop et psychédélisme. Something New, c'est un tout nouveau titre de Babe Rainbow, groupe qui sort le 21 septembre prochain au Point Éphémère à Paris.
Mishka Asayas.
Voilà, toujours plongé dans les ambiances languides de l'océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande en l'occurrence, une mélodie planante et comme instable, qu'on dirait proche du mal de mer ou de la gueule de bois. Let's Be Honest, c'était le nom de cette chanson tirée de Jazz Busters, c'est le nouveau, enfin le dernier album, il n'est pas tout nouveau, du néo-zélandais Conan Moccasin, qui a suscité un grand engouement en France lors de son passage très remarqué, c'était en 2010 au Transmusical de Rennes. Il avait coécrit et co-réalisé l'année suivante un titre pour l'album Stage Whisper de Charlotte Gainsbourg, une de ses admiratrices, et c'est d'ailleurs à Paris, au studio Ferber, que Conan Moccasin a réalisé son dernier album avec Renaud Le Temps, hein, qui s'est fait connaître auprès de Manu Chao il y a de ça 20 ans, et qui depuis a collaboré donc avec Charlotte Gainsbourg, et puis aussi Les Kills et Franz Ferdinand. Ce qui, enfin ça m'amène, c'est pas ce qui m'amène, mais enfin on va rester dans le Pacifique, voilà, et c'est ça qui m'amène à vous présenter un jeune groupe de Tokyo qui s'appelle, alors Stéphane Ronxa m'a mis au défi de le prononcer, mais je vais le faire, Kikagaku Moyo, voilà, un groupe tellement psychédélique qu'il accueille même dans ses rangs un joueur de sitar. Il y a dans la musique, je vais le redire, de Kikagaku Moyo, une fraîcheur pleine de délicatesse qui révèle, ou qui rappelle à ceux qui savent, qu'il peut exister un rock psychédélique oriental tropical très particulier où l'on sent fortement les effluves du Pacifique. Orange Peel, c'est extrait d'une nouvelle album dont je parle une troisième fois, de ce groupe japonais. L'album s'appelle Masana Temples.
Remember now that dead had gone. Remember now the time's been spent up. There's no place left to rent up. There ain't much else for you to do. Skyless moon. Maybe spring will change up your tune. Remember now it's dead, heck gone. Memories keep singing their songs.
Skyless Moon, la voix d'un relativement jeune chanteur et musicien d'origine canadienne, 29 ans, qui depuis quelques années représente un petit phénomène à lui tout seul. Il se fait appeler Mac DeMarco, DeMarco en un seul mot. Il a grandi à Edmonton, c'est la deuxième grande ville de l'Alberta canadien, juste après Calgary. Et il vient donc de publier son quatrième album qui s'appelle Here Comes the Cowboy. Alors c'est un musicien à part, pas seulement par sa voix impressionnante, hein, surtout dans ce titre, au très beau timbre. Il est surtout à part par la tendresse particulière qu'il arrive à susciter chez son public. Une affection assez rare, comme on peut en avoir plutôt vis-à-vis d'un enfant tout fou, à la spontanéité sans frein. Mac DeMarco a pas un style d'une forte originalité. Il écrit et chante des chansons brèves, des chansons inspirées par sa vie, au style et rythme divers, country, tropical, un peu jazzy parfois. Et puis alors, il aime bien recourir aux dissonances, c'est-à-dire qu'il utilise sur sa guitare un effet qui en modifie en cours de chanson la tonalité. Quand il est en train de jouer, vous avez l'impression que son instrument se désaccorde. On a pu d'ailleurs entendre ça également chez Conan Moccasin qu'on a entendu tout à l'heure. On a l'impression comme ça que quelque chose se flotte, se dérègle, on se sent pris d'un léger vertige, d'une douce ivresse. Mac DeMarco est singulier, non, pas parce qu'il met en musique les éléments de sa vie intime, ça y en a beaucoup qui font ça, mais parce qu'il brise de façon assez déconcertante les barrières qui séparent en général un artiste de ceux qui l'écoute. Alors un exemple, eh bien dans une de ses chansons de l'album précédent, c'était en 2016, il n'a pas hésité à donner l'adresse de l'appartement qu'il occupait alors à Brooklyn. Et imaginez qu'environ 2000 personnes en 2016 ont carrément débarqué chez lui. J'ai dû servir beaucoup de café, c'est son commentaire. Et sa copine avec laquelle il vit aujourd'hui à Los Angeles est devenue, elle, complètement dingue. Mais c'est toute la vie et toute l'intimité de Mac DeMarco qui sont ouvertes à tout vent. Sur scène, lui est même arrivé de se produire littéralement à poil. Et ce qui fascine d'ailleurs le public de Mac DeMarco, c'est qu'il a strictement aucune inhibition. Quand on va le voir, on attend évidemment le happening. C'est peut-être ce qui va se passer. Il va se produire, il sera le 30 mai au festival Primavera à Barcelone. Pas facile en plein air de se mettre à poil, s'il fait beau, je sais pas. Le 6 juillet à Hérouville-Saint-Clair, ça sera un festival aussi. Le 10 juillet aux Nuits de Fourvière. Et puis, il fera une mini tournée française qui passera le 15 novembre par le Zénith de Paris, c'est quelque chose. Le Liberté à Rennes, le 16 et le 17 à l'Aéronef de Lille. Alors, ça doit quand même pas faire oublier tout ce que je vous raconte d'un peu rigolo sur lui, que c'est un très bon musicien, Mac DeMarco, et que son quatrième album, Here Comes the Cowboy, est vraiment d'une grande qualité musicale. Alors, comme d'habitude, il joue de tous les instruments, y compris de l'accordéon, enfin, de, avec ses pieds, je sais pas comment il fait, enfin il le fait, et il y a juste son pianiste qui est venu lui donner un coup de main, mais ça embêtait Mac DeMarco que le pianiste utilise un clic, enfin un métronome si vous préférez, parce que pour lui ça sonnait trop régulier. Mon problème, dit-il, c'est que j'aime que les choses soient merdiques, mais d'une manière parfaite. C'est presque un aphorisme zen. Le musicien que vous allez entendre tout de suite est, lui, un Américain de Baltimore, à la ville qui se trouve tout près de Washington, vers le nord. Il a décidé, lui, de se faire appeler Panda Bear, un ours panda. Il a formé un groupe qui s'appelle Animal Collective avec son camarade Avi Ter. C'est un groupe qui a réalisé toutes sortes d'expériences sonores. On a pu les qualifier de néo-psychédéliques. Ce garçon est venu à la musique comme beaucoup de sa génération. Il était teenager dans les années 90 par la techno, enfin la musique électronique en général. D'ailleurs, il a jamais donné avec son groupe de concerts au sens classique de concerts de rock, mais il a plutôt cherché toujours à entraîner son public dans une ambiance de fête, une expérience de trance collective joyeuse et souvent loufoque, plutôt proche des rave parties. Panda Bear est quelqu'un qui s'est beaucoup consacré à l'expérimentation sur le son. Il a beaucoup travaillé au maniement des samples, enfin des échantillons sonores si vous préférez. Il a réalisé donc parallèlement à Animal Collective une demi-douzaine d'albums en solo. Il y en a un qui vient de sortir qui s'appelle Boys, hein, comme des bouées avec un U. Et ce titre, Dolphin, comme un dauphin, figure dedans. Et vous allez entendre On s'y croirait.
The sea. To the end of the road. Could it be? Has it always been so? So quiet, I would always be there when you need it. Wanna give you a hand, gonna creep. Gonna switch off the screen, unblinded, and I'll always find you. Knelt down upon the knee. To the end, to the things that we see, clever Ben, as a cat up a tree. So spry in the space between comparisons to you, to the edge of a cliff, us the us, the frustrated crowd, so vile. Let it all define you. A clown among the thieves. To the end. Thank you.
trip sur France Inter.
Sans doute penser à John Lennon dans sa période psychédélique avec les Beatles. C'est difficile de pas sentir sa présence, son timbre. Il y a même à un moment dans ce titre le rythme de I Am The Walrus. Eh bien, c'était son fils Sean Lennon qui s'est associé pour la seconde fois. La première, c'était en 2016 avec le bassiste virtuose californien Les Claypool, fondateur il y a 30 ans déjà à San Francisco du groupe Primus, sorte de fusion unique en son genre de rock new wave à la Talking Heads, de metal, de funk et de musique dite progressive dans un esprit loufoque qui a pu évoquer celui de Frank Zappa. Sean Lennon et Les Claypool viennent de publier un second album sous le nom du Claypool-Lennon Delirium, un album intitulé South of Reality, et la chanson qu'on vient d'entendre s'appelait Blood and Rockets. Tout de suite, et bien après Mac DeMarco, encore un Canadien excentrique, un peu d'une autre espèce, Jean-Sébastien Houdet, c'est son nom, c'est un musicien montréalais qui se fait désormais nommer Yves Jarvis, après avoir diffusé sa musique sous le nom de Un Blonde ou Un Blonde, hein, je sais pas. Alors déjà, ça fait assez bizarre quand je vous raconte ça. Et ce type, c'est une sorte de phénomène. Il a commencé à faire de la musique à 5 ans, si ce n'est à 3. Il a chanté tout petit à la chorale de l'église avec ses frères et sœurs. Sa famille s'est installée à Calgary, après Montréal. Et puis au cours d'un voyage des vacances en Europe, le garçon, qui était encore mineur, a faussé compagnie à ses parents. Il a chanté dans les rues pour gagner de l'argent de poche et pouvoir s'acheter un iPod Touch. Et bien, il y est arrivé, il a reçu assez de sous tellement il était étonnant et doué. Alors il enregistre absolument seul avec divers instruments, il fait tout seul, tous les instruments, toutes les voix, dans tous les styles. C'est une sorte d'autodidacte génial et très, très barré. Yves Jarvis, c'est son nouveau nom, vient d'enregistrer un nouvel album de 22 titres publié par une compagnie américaine de premier plan, Anti, qui publie par exemple récemment les albums de Tom Waits. Et celui que je vous propose d'écouter, le titre de Yves Jarvis s'appelle Talking or Listening. C'est étonnant d'entendre ça, surtout quand on considère qu'il a tout fait tout seul.
What's true of most things, I don't know, so I'm asking. Where to go and what's casting space was ever kicking around about 2 decades. I've got an ease in the sound of those cicada songs. So it's you, curse your mind now. Listening.